bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour l'IA, les données. On sait qu'il en faut énormément, mais la qualité, c'est une autre histoire.
Absolument. Le web, c'est une mine d'or, potentielle. Mais bon, c'est aussi un sacré bazar.
C'est le moins qu'on puisse dire. Trouver les bonnes infos, les données de qualité dans cette masse, c'était jusqu'à maintenant un vrai casse-tête. Très cher, très complexe.
Oui, le défi, c'était pas tant la quantité, on l'a dit, mais plutôt le manque de grands ensembles de données qui soient à la fois vastes et surtout bien structurés. Organiser tout ça, ça coûte une fortune. Et c'est là qu'intervient cette nouvelle ressource dont on entend parler, Essential Web V1.0. On va regarder ça de plus près en se basant sur un article scientifique publié sur Archive par l'équipe d'Essential AI.
Exactement. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'il a de spécial, ce dataset, et pourquoi il pourrait vraiment faciliter les choses pour entraîner les modèles d'IA. Voir comment ça pourrait simplifier tout ce processus de collecte, quoi. Alors, la taille déjà, ça frappe. 24 trillions de tokens.
Oui, c'est énorme. 24 trillions. C'est un chiffre qui donne le vertige. Mais en fait, c'est pas ça le plus important.
Ah bon? Alors qu'est-ce que c'est, si c'est pas la taille?
C'est l'organisation. C'est ça, la vraie nouveauté. Ce qui est fascinant ici, tu vois, c'est que chaque document, dans Essential Web, il n'est pas juste jeté là.
D'accord.
Il est annoté, et de façon très précise, selon une taxonomie. 12 catégories différentes en tout.
12 catégories? Ah oui, quand même. Ça comprend quoi, par exemple?
Alors, on va trouver le sujet principal, le format du document, une évaluation de sa complexité et même un score de qualité. C'est cette structure qui est vraiment la clé.
Impressionnant. On imagine bien la puissance pour filtrer, pour trier. Mais comment ils ont fait concrètement pour annoter une telle masse de données?
Alors là, l'approche est assez maligne. Ils ont entraîné un modèle d'IA, mais un modèle spécifique pour ça.
OK.
Il s'appelle EAI Distill 05B. Alors, 0,5B, ça veut dire 0,5 milliards de paramètres. C'est, disons, relativement petit par rapport au géant actuel.
Ah, là, ça devient hyper intéressant. Un petit modèle pour étiqueter tout ça. On pourrait craindre que ce soit pas très fiable, non?
Eh bien, figure-toi que non. Les résultats sont remarquablement bons. Ce petit modèle, EAI Distill, il atteint une concordance dans les annotations qui est à peine 3% moins bonne que celle d'un très gros modèle de référence, genre Qwen2.532b Instruct, qui a plus de 30 milliards de paramètres.
Incroyable! 3% d'écart avec un modèle 60 fois plus gros.
Exactement. C'est un peu comme utiliser un outil très spécialisé, très précis, plutôt qu'un outil massif mais moins ciblé. C'est plus petit, mais super efficace pour cette tâche précise.
Mais l'impact pratique pour les équipes qui développent des IA, c'est quoi?
L'impact, il est direct. Grâce à cette taxonomie, à ces étiquettes, on peut maintenant très facilement extraire des sous-ensembles de données. Des données très ciblées, de haute qualité.
Comment ça, facilement?
Simplement en appliquant des filtres, un peu comme une requête SQL sur une base de données, quoi. Tu veux, disons, des articles scientifiques, récents, d'haute qualité sur un sujet précis, ou alors du code C++ bien commenté.
Oui.
Quelques filtres, et hop, tu as ton sous-ensemble. En théorie, c'est aussi simple que ça.
D'accord, je vois le potentiel. On peut vraiment sculpter son jeu de données. Et est-ce qu'on a déjà des preuves que ça donne de meilleurs modèles au final?
Oui, l'article présente des chiffres assez parlants. En utilisant juste ces filtres pour créer des datasets spécialisés, ils ont mesuré des améliorations nettes par rapport à l'état de l'art. Par exemple, plus 14,3% de performance pour le code web, un bond assez spectaculaire de plus 24,5% pour les domaines scientifiques et techniques, ce qu'on appelle STEM, et aussi plus 8,6% dans le médical.
Ah oui, plus 24,5% en STEM, c'est énorme.
C'est considérable, oui. Même en maths, où c'est un peu moins bien, avec moins 8,0%, ça reste très compétitif par rapport aux méthodes existantes.
On voit tout de suite comment ça peut accélérer la recherche, permettre de développer des IA plus performantes dans des domaines très pointus.
C'est exactement ça. Ça ouvre la porte à des modèles entraînés sur des données plus propres, plus pertinentes pour ce qu'on veut leur faire faire. Et puis, il y a la question de l'accès.
Justement, j'allais y venir. Est-ce que c'est utilisable par tout le monde?
Oui, et c'est une très bonne nouvelle. L'équipe d'Essential AI a rendu Essential Web V1.0 disponible sur Hugging Face. Donc, la communauté des chercheurs peut y accéder.
Super. Alors si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir d'Essential Web V1.0? Ce n'est pas juste encore plus de données.
Non, pas seulement. L'avancée majeure, c'est vraiment cette organisation, cette structure apportée par la notation intelligente faite par une IA. Ça change la donne pour la curation des données.
Ça simplifie tout, en fait.
Voilà. Ça démocratise l'accès à des données de très haute qualité et ça permet potentiellement de créer des IA plus fines, plus spécialisées. Donc oui, c'est pas juste plus, c'est surtout mieux organisé, mieux exploitable.
Une étape importante donc. Mais ça soulève une question un peu provocatrice peut-être pour finir.
Ah ouais.
Maintenant que l'IA elle-même structure et étiquette les données du web à cette échelle, comment s'assurer que cette structuration, même involontaire, ne vienne pas renforcer ou même amplifier les biais qui existent déjà dans les données brutes ? Quelle vigilance il faut avoir face à ces outils si puissants ?
Excellente question. C'est un point crucial pour l'avenir, en effet. La responsabilité dans l'utilisation de ces données structurées, c'est quelque chose à garder à l'esprit.
Absolument. Voilà qui donne matière à réflexion. Merci pour cet éclairage.